Ouais, salut Daniel, c'est Renaud à l'appareil. Eh ben, j'appelle pour te faire part de mon indignation à la lecture de l'odieux plagiat dont s'est rendu coupable Bernard-Henri Lévy ce week-end dans les colonnes du JDD. Il s'agit d'un reportage à Gaza qui reprend l'esprit, parfois même la lettre, de notre reportage, de notre émission de mardi dernier. À vrai dire, je suis sous le choc. Bernard, puisque tu nous écoutes, je tiens à te le dire amicalement, tu m'as déçu.
Voilà, donc j'appelais pour vous faire part de mon indignation quant aux propos qui ont été tenus par l'ambassadeur d'Israël à Paris, dans l'émission de Nicolas Demorand, où il disait qu'il dormait la conscience tranquille. Il dormait la conscience tranquille avec sur la conscience 1300 morts. Bon, évidemment, c'est des Palestiniens, hein, on s'en fout, on sait bien que tous les Palestiniens sont des terroristes, il n'y a pas de pétrole en Palestine, c'est des Arabes, c'est des bouillons, tout ce que vous voulez, donc on n'en a rien à foutre, hein, on laisse faire. Allez, rentrez dans la bande de Gaza, zigouillez tout ce que vous trouvez, et vous revenez tranquillement, hein, voilà, et puis on n'en parle plus. Hein, personne, la communauté internationale n'a pas condamné Israël, personne ne le fait parce qu'on a peut être traité d'antisémite. Eh bien tant pis, si on me traite d'antisémite aujourd'hui, juste pour aujourd'hui parce que j'aurais dit ça, eh bien tant pis, je l'assume. Je condamne expressément, en tant que citoyen, ce qui a été dit par l'ambassadeur d'Israël à Paris. Je trouve ça choquant, et je trouve ça choquant qu'on laisse parler des gens comme ça à la radio. Voilà, bon, c'était Jacques Alouine et je suis assez énervé et choqué par ce que j'ai entendu. Voilà, donc... passez une bonne journée et puis à très bientôt et puis voilà, et puis à très bientôt et puis voilà, bip, terminé, message.
Bonjour Daniel, je voulais pousser un coup de gueule contre ce pouvoir qui justifie le crime d'Israël. Je suis désolé, nous avons assisté à quelque chose d'absolument scandaleux, le bombardement d'un hôpital que rien ne peut justifier. Je viens d'entendre le témoignage du médecin français dans cet hôpital. C'est vraiment honteux et j'attends que le président Sarkozy dénonce ce crime, je dis bien c'est un crime honteux, contre un hôpital. Il n'y avait pas de gens du Hamas dans cet hôpital, comme l'a dit le médecin. C'est vraiment une honte. Quand les pouvoirs français vont-ils se réveiller pour condamner cette agression, ce crime d'Israël contre la Palestine ? Ça suffit, il y en a ras-le-bol. Salut Daniel.
Merci Madame Siboni, merci à votre groupe l'UJFP et merci de nous montrer que tous les juifs ne sont pas des Israéliens de l'armée et du gouvernement et que y a une âme humaine en chacun d'entre nous. Vive la paix et merci Monsieur Mermen de nous permettre d'entendre ces voix juives qui sont contre ce massacre. Merci, au revoir, bon courage à tous.
Oui, monsieur Mermet, bonjour. C'est toujours très, très émouvant, vos reportages sur Gaza, en général. Bien. Vous interviewez toujours des Israéliens, qui ne représentent qu'eux-mêmes, d'ailleurs. Mais je voudrais quand même vous dire, des Israéliens, il y en a d'autres. Il y a ceux qui vivent sous les roquettes depuis plus de 7 ans, qui vivent dans les abris. Vous connaissez les villes, Sderot, et plus récemment, Ashkelon, Beersheva, Ashdod... et bien d'autres. Ça représente 800 000 personnes qui vivent. Bon, pour vous, c'est peut-être pas des êtres humains, je n'en sais rien. Jamais vous allez interviewer ces personnes-là. Alors, eux représentent du monde. Allez voir leurs représentants. Et peut-être que ça équilibrerait un petit peu votre présentation de cette situation. Et il y a beaucoup, malheureusement, de victimes civiles à Gaza, c'est évident. Mais il faudrait quand même dire que dans tous les conflits, ce sont les militaires qui protègent les civils, n'est-ce pas ? Même pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup en Israël, hein, de victimes, grâce à Dieu. Peut-être que vous en auriez souhaité plus. Voilà, mais à Gaza, c'est le contraire. Ce sont les civils, les femmes, les enfants, les hommes, les civils qui normalement devraient être protégés par les militaires. Et ce sont donc ces mêmes civils, femmes, hommes et enfants qui protègent les militaires. C'est le seul endroit au monde, le seul conflit au monde où ça se passe comme ça. Et ne dites pas que le Hamas, ce ne sont pas des militaires. On les voit s'entraîner avec leurs Kalachnikov, leurs treillis, et leurs roquettes, leurs lance-roquettes, leurs missiles, leurs obus de mortier, leurs missiles grades, leurs Kassam. Ils sont armés jusqu'aux dents. Donc c'est à eux de protéger leurs civils et non pas à les exposer. Voilà. faites une présentation de cette façon, peut-être que ça serait plus honnête. Voilà, bonne journée, monsieur Larmé.
Oui, bonjour Daniel. Merci pour la qualité de tes émissions et en particulier et la qualité des émissions de France Inter d'une manière générale. Je voulais passer sur ton répondeur pour annoncer aux auditeurs de France Inter, leur faire part de la réunion qui se tiendra ce soir et qui sera organisée par Marianne à Paris pour la paix et qui donnera, en fait, qui reviendra sur le pacte de Genève de 2003 qui à l'époque avait déjà dresser le bilan du problème israélo-palestinien et qui avait proposé une paix qui aurait pu être, si elle avait été appliquée, on aurait évité tous ces massacres. Bonne journée, Karim de Paris.
Christophe Imbert et Daniel Mermet, ici Noël Bréham de France Inter. Je vous appelle, mais je ne suis pas à la radio aujourd'hui. Je suis en train de remplir ma feuille de recensement. L'avez-vous vu, cette feuille de recensement? Et tout ce qu'on nous demande, voilà, quelle est votre nationalité? Française? Êtes-vous né français? Êtes-vous devenu français? Comment? Enfin, étrangère, quelle est votre nationalité? Bon, voilà, plus tout un tas de questions sur les diplômes, d'une précision incroyable, plus tout un tas de questions sur notre travail, d'une précision incroyable. C'est une feuille de recensement, il n'y a qu'une question qui manque, c'est la taille de la bite, mais alors je ne me comprends même pas pourquoi ils ne l'ont pas demandé, vu tout ce qu'ils demandent. Et c'est incroyable, voilà. L'avez-vous vu? Sinon, je vous l'apporterai. Je vous embrasse tous.
Ah, dis donc, mais c'est Noël Bréham, notre camarade Noël Bréham, la maman des petits bateaux. Très bien, merci, bravo. Voilà une vraie question. Alors, on va faire comme pour les petits bateaux, on va essayer de trouver une réponse. Ça ne va pas être facile. Bon, aujourd'hui, c'est la diversité. Vous avez vu, c'est très, très bien la diversité. Oh, c'est bien, c'est beau la diversité. Mais alors, c'est un petit peu curieux parce que nous, on a réfléchi avec l'équipe de là-bas si j'y suis, et tous ces chantres de la diversité, on s'est dit, mais c'est curieux, on les a pas vus sur les chantiers avec les sans-papiers. On les a pas vus non plus dans les centres de rétention de Monsieur Hortefeux. On les a pas vus. Et puis les Roms. On ne l'a pas vu non plus aux côtés des Roms. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a parlé des Roms? Oui, bien sûr, on va parler des Roms dans la diversité. Ils ont aussi, eux, le sens du rythme. Et puis, un petit peu peigné avec un petit coup de maquillage, un petit coup de Photoshop, ils peuvent faire très, très bien sur l'affiche Benetton. Et puis alors, on vous a pas vu non plus aux côtés des 7 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ah, vous me dites, mais là, attention, vous confondez tout. On est en train de parler de la diversité. C'est la journée de la diversité raciale et non pas de la diversité sociale. Mais dites-moi, chers amis de la différence, il y a beaucoup plus de différence entre un arabe riche et un arabe pauvre qu'entre un arabe riche et un banquier de la City, non ? Abolir les différences raciales, c'est un combat très valeureux, mais abolir les différences sociales, c'est assez curieux. Ça fait de vous un personnage douteux. Apartheid social, ségrégation sociale entraînent autant de violences, sont aussi inacceptables que l'apartheid racial. C'est assez curieux. Curieux que ceux qui produisent et qui militent les turiféraires de l'inégalité raciale restent indifférents devant l'inégalité sociale. Assez extraordinaire. Et on va en parler aujourd'hui, évidemment, dans cette nouvelle diffusion d'un reportage de 2006, de la rentrée 2006, au Musée des Arts Premiers, vous savez, au Quai Branly, où là, de façon tout à fait renversante et éclatante, ces questions étaient mises en jeu, comme on dit. Voilà, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Marie-Paul de Villejuif. Que cela ne nous fasse pas oublier le massacre des indépendantistes à Moule. Le peu d'informations qu'on nous montre à la télé, c'est des avions qui survolent leur territoire. À tous les Tamouls qu'on rencontre dans les manifs, sachez que nous compatissons très fort. Pour les renseignements généreux, à tous les ANZ qui ne sont pas au courant, L'ambassade du Venezuela, la semaine passée, a reçu des jus de pierre qui a cassé quelques vitres. Parce que deux présidents ont osé protester contre l'agression d'Israël dans la bande de Gaza, en retirant leur ambassadeur israélien, le Venezuela et la Bolivie. Au revoir.
Salut toute l'équipe, c'est Laurence de Strasbourg. Petite citation, toute l'histoire du contrôle sur le peuple se résume à cela. Isoler les gens les uns des autres, parce que si on peut les maintenir isolés assez longtemps, on peut leur faire croire n'importe quoi. Mais quand les gens se rassemblent, alors beaucoup de choses deviennent possibles. C'est pas une citation de Nicolas Sarkozy, c'est une citation de l'ami Noam, M. Chomsky, pour prendre le pouvoir, deuxième mouvement, aux éditions Aden. Ben voilà, on s'organise, on se rassemble, et puis on commence à bouger. Hein, premier pas du rassemblement final, le 29 janvier. Allez, ciao à tous, et bon courage.
J'ai particulièrement apprécié la remarque d'Alain Passerelle concernant les émoluments de caca à Manchester. 550 000 euros par semaine. En Angleterre, ils n'osent même plus annoncer le salaire mensuel. Alors j'ai fait un petit calcul. Remarquez bien que ça ne fait jamais que 8,3 centimes par dixième de seconde. Bonne année.
Ici le repère de Marseille. Bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Le prochain repère aura lieu ce mardi 20 janvier à 19h30 au café-restaurant La Passerelle qui se situe au 26 rue des Trois Mages dans le 6e arrondissement de Marseille. Nous débattrons ensemble du thème de la décroissance et des autres formes de croissance. Auparavant, les deux groupes de travail nous auront présenté leurs travaux. En premier, la commission cinéma, en collaboration avec le cinéma Le Prado de Marseille, travaille activement à la venue de Daniel Mermet le 11 février pour la projection de Chomsky et compagnie. Le deuxième groupe de travail prépare le séjour d'Hervé Kempf dans notre belle Provence, où il passera deux jours à la rencontre de ses lecteurs. Donc, retrouvons-nous tous ce mardi 20 janvier à 19h30 à la Passerelle dans le 6e arrondissement de Marseille. Bonne journée à tous.
Voilà, un petit coucou des femmes de mineurs de fer de Valleroy pour vous informer que le film Le privilège de la honte passera le 22 janvier à 14h30 à la salle Gérard Philippe de Jarny en Meurthe-et-Moselle. Merci à toute l'équipe, vraiment merci. Au revoir, à bientôt.
Ah, ah, c'est ça dont je vous avais parlé.
Ah voilà, ouais, ouais, formidable. C'est un dessin de Wilhelm magnifique. Ah oui, enfin, formidable si on peut dire. C'est les boat people qui arrivent probablement vers les Canaries, qui arrivent vers les Canaries ou qui arrivent vers l'Europe, et qui se noient, qui sont dans des souffrances terribles, et à un garde-côte qui les menace avec son flingue, les pauvres gens, les pauvres Africains disent « Nous venons visiter le musée des arts premiers ».
L'amiral Bléau, secrétaire d'État à la Marine et aux colonies, et M. Hautecoeur, directeur général des Beaux-Arts, inaugurent à Paris une exposition qui montre l'influence de l'exotisme colonial sur le décor de la vie française. Des porcelaines de Sèvres inspirées de l'art turc. Une nature morte de Gauguin. Une commode en bois des îles. Une armoire en lac Annamite et le célèbre pavillon en ivoire offert par l'empereur Qianlong à Louis XV.
Cette nouvelle institution, dédiée aux cultures autres, sera pour celles et ceux qui le visiteront une incomparable expérience esthétique, en même temps qu'une leçon d'humanité indispensable à notre temps.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Renaud Lambert. Là-bas, si j'y suis, le musée du Quai Branly.
Bonjour, Monique. Bonjour. Alors, on viendra autant au musée du Quai Branly pour son bâtiment que pour ses œuvres.
Oui, Jean Nouvel a réussi son pari, celui de construire le musée le plus mystérieux de Paris. Un bâtiment sur pilotis qui épouse les courbes de la Seine. Un jardin de près de 2 hectares planté de lianes, de magnolia, d'érables et de chênes. Quand les arbres pousseront, ils iront chatouiller les grosses boîtes couleur ocre qui ont fait tant jaser, et ces boîtes ressembleront alors à des cabanes. Jean Nouvel, qui a conçu pour la première fois un musée autour d'une collection, a voulu une visite initiatique.
Quand on rentre, en fait, j'ai voulu prolonger cette initiation. On prend une grande rampe, comme ça, qui dure quand même 150 ou 180 mètres. J'appelle ça la remontée du fleuve, hein, donc, et là, on tombe dans la galerie sacrée.
Une galerie de 5000 mètres carrés où vous aurez l'impression d'être dans une forêt divine, inondée tantôt de soleil, tantôt d'étoiles. Jean Nouvel a même pensé à l'agencement des trésors venus des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, suspendus dans de très grandes vitrines. On a l'impression de pouvoir les toucher.
Et 3500 objets seront exposés en permanence, plus spectaculaires les uns que les autres.
Ah oui, les 3500 pièces ne représentent qu'un dixième des réserves du musée, mais ce sont les plus belles, des masques, parures, totems, costumes, armes ou instruments de musique réalisés dans tous les matériaux possibles. La plus spectaculaire, c'est la Joconde du musée, une femme barbue, elle est couverte de bijoux, ses seins nus lui arrivent au ventre, cette divinité Dogon de la fertilité a été sculptée dans du bois au Xe siècle. Son prix aujourd'hui s'élève à 4 millions d'euros, mais vous trouverez aussi des objets plus modestes comme une plante charme, utilisée par les gars vietnamien pour faire la cour aux jeunes filles en lui chatouillant son dos. Ces 3500 objets étaient destinés aux vivants ou aux morts, aux chefs ou aux villageois. Ils nous rappellent qu'avant que ça devienne de l'art, c'était l'art de vénérer les dieux.
Un désastre, un monument d'incompétence, une catastrophe, un naufrage dans un marécage de poncifs prétentieux, un endroit à pleurer. Ainsi s'exprime Fiacra Gibbons du journal The Guardian, journal de Grande-Bretagne, au sujet du Quai Branly. Ça tranche un petit peu avec l'enthousiasme et l'euphorie qui a gagné la presse française lors de l'inauguration du musée du Quai Branly. On peut dire, oh bah oui, mais c'est des Anglais, ils nous aiment pas, ils sont toujours très méchants avec nous. D'accord, alors tournons-nous vers la presse américaine, vers le New York Times par exemple, où Michael Kimmelman n'est pas tellement plus tendre avec le musée du président Chirac, où il dit, si on avait demandé aux Marx Brothers un musée pour les peuplades primitives, ils auraient créé ces galeries, une jungle effrayante, rouge, noire et boueuse, un accrochage sans logique apparente, un lieu à l'apparence excitante au premier abord, mais qui, à l'évidence, est conçu de travers. L'endroit n'a tout simplement aucun sens. Le vieux et le neuf, le beau et le médiocre, tout est empilé sans rime ni raison, sinon la recherche d'une théâtralité visuelle. Eh bien, c'est bien de cela qu'il s'agit. Une théâtralité visuelle, c'est-à-dire d'une mise en scène tout à fait esthétisante, d'objets dont on décide qu'ils sont beaux et qu'on met en valeur sans nous dire exactement quelles sont ces valeurs. Et ces valeurs pourraient bien, malgré une évidente bonne volonté qui ressemble assez à la bonne volonté de ceux qui ont participé à la mission colonisatrice de la France, la mission civilisatrice de la France, pourrait bien être le même piège, c'est-à-dire de décider à la place des autres. Cette expérience esthétique dont parle le président de la République, eh bien, que ce soit nous qui choisissions, qui disions voilà, ça c'est beau, ça l'est moins, et que tout se passe selon et notre agenda, et nos valeurs, et notre exclusif regard. Et il se pourrait bien, ajoute ce journaliste du New York Times, que le musée lui-même comporte, disons, des miasmes d'une certaine forme de colonialisme. Je le cite, le colonialisme de jadis remplacé par un nouvel avatar de la condescendance française. Alors, on est très sévère, évidemment, avec ce musée, mais on n'est pas les seuls. Depuis des années, depuis que le projet existe, il existe une controverse entre un certain nombre d'ethnologues, d'intellectuels, de spécialistes, ou pas d'ailleurs, et puis ceux qui ont œuvré à la construction, à la préparation et à l'ouverture de ce musée. Manque de chance, cette polémique qui est très passionnante, très intéressante entre les ethnologues et les esthètes et qui, à elle seule, pourrait nous éclairer, est une polémique riche, une controverse riche sur le plan des choix culturels que nous pouvons faire et qui est très éclairante. Eh bien, on est très malheureux à la base. J'y suis parce que la direction du musée du Quai Branly a refusé toute interview et a refusé de participer à cette émission, tout comme à toute les controverses, les discussions sur le sens des objets présentés dans ce musée du Quai Branly. Ça ne nous empêche pas d'être ensemble dans ce musée et ailleurs jusqu'à 16h dans la basse suite.
Donc ici, c'était la salle Esquimau, qui était remplie de pièces rapportées par Paul-Émile Victor entre 1931 et 1935. Et ensuite, on arrive, après les Esquimaux, on arrive à l'Asie, où également, ça avait été rénové plus ou moins complètement au cours des temps. Et puis on va arriver à l'Océanie. Ici, l'Océanie avait été rénovée également.
Ce qui est formidable, c'est que vous êtes en train de me dire les Esquimaux, l'Asie, l'Océanie, mais il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est qu'il n'y a rien. on est en train de marcher dans du vide. Et oui, il n'y a plus rien, puisqu'on est au Musée de l'Homme. Vous voyez le Musée de l'Homme à Paris, c'est le Trocadéro. Quand vous regardez la tour Eiffel devant l'esplanade des droits de l'homme, eh bien c'est à droite. Il y a toujours le vénérable musée de la marine que je vous engage à visiter. C'est un endroit formidable. Et puis là, il y avait le musée de l'homme. Il y avait le musée de l'homme, puisque avec l'ouverture du musée du Quai Branly, eh bien, c'en est fini de ce musée, le musée de l'homme. Pour l'instant, c'est fini. C'est vide, en tout cas. Les pièces, nombreuses pièces qui étaient dans ce musée, 300 000 objets divers et variés, ont été stockés. Une partie importante dans les sous-sols de l'actuel, donc, nouveau musée du Quai Branly. Et cet espace énorme, cet énorme vaisseau est vide aujourd'hui, et on l'arpente avec Bernard Dupeigne. Bernard Dupeigne a été directeur du laboratoire d'ethnologie du musée de l'homme pendant des années, de 91 à 98, et il a réuni une très importante collection ethnographique, et il a publié un livre qui s'intitule « Le scandale des arts premiers ». Les arts premiers, c'est le mot que finalement on n'a pas choisi pour ce musée du Quai Branly. Ça a donné lieu à des polémiques, toutes très intéressantes, ces polémiques, hein. Art primitif, art premier, art ethnique, art tribaux, tout ça. Ça en dit long sur le regard que nous portons sur le reste du monde, sur ce que nous sommes, sur ce qu'est notre pays et son histoire, et évidemment son histoire coloniale. L'intention affichée du musée du Quai Branly, c'est justement de hisser ces objets produits par des sociétés diverses et variées en Océanie, dans les Amériques, en Afrique, en Océanie, c'est de dire ces objets méritent qu'on les admire au même titre que on admire des objets occidentaux. Mais cette façon de hisser, d'ennoblir en somme ces productions de ces régions non européennes, c'est nous qui décidons. En l'occurrence, quelques esthètes qui ont travaillé à la création de ce musée et qui sont pour la plupart des gens engagés dans le commerce de l'art et qui sont des négociants en objets d'art. Parce que ce qui est important dans art primitif, c'est objet d'art primitif, c'est objet d'art premier, c'est objet d'art ethnique et c'est objet d'art tribaux. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'objet. Ce qui compte, c'est l'objet. Pourquoi ? Ce qui est très, très important dans l'objet, c'est qu'on peut spéculer sur un objet. On peut vendre et acheter un objet. Et on est allé vers ça. Au moins, c'est ce qui désespère un certain nombre d'ethnologues, un certain nombre de ceux qui se sont opposés ou qui contestent le sens de ce musée, et qui disent il y a des objets, mais il n'y a pas de sujet derrière ces objets. Et c'est pourquoi on va nous aller découvrir ce musée du Quai Branly avec les héritiers de ces cultures, avec des Africains que vous allez découvrir. Pour l'instant, on est avec donc Bernard Dupeigne au pied de ce grand musée vide, celui de l'homme.
Donc je suis Bernard Dupeigne, il se trouve que je suis ancien directeur du laboratoire d'ethnologie du Musée de l'Homme, et laboratoire dont les collections ont été emportées au Quai Branly, au nouveau musée du Quai Branly, et forment non pas la totalité de ces collections, mais une grande partie des collections du Quai Branly.
Alors là, il faut dire qu'on est dans un des plus beaux endroits de Paris. On est au Palais de Chaillot. On est sur cette sublime esplanade du Palais de Chaillot. Devant nous, la Tour Eiffel. Il y a un ciel magnifique. On aperçoit là-bas le Dôme des Invalides. Derrière nous, il y a des jeunes gens qui font du hip-hop, et c'est superbe. Et puis c'est l'aile, alors quand on regarde la Tour Eiffel devant soi, c'est l'aile droite du Palais de Chaillot, et là il y a le musée de la Marine et le musée de l'Homme. Alors il y a cette terrasse, il y a ce restaurant très agréable, et sauf que c'est vide, ou presque maintenant, le musée de l'Homme. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si on regarde là-bas, hein, on a les Invalides là, et derrière ce bosquet d'arbres, il y a le musée du Quai Branly. C'est-à-dire que c'est ce que vous voyez et que vous arborez quand même, il faut bien dire les choses.
Oui, bon, regrette quand même d'avoir été dépossédé de nos collections, de notre science et je dirais presque même de ce bâtiment. On a le plus beau bâtiment de Paris sur une place extraordinaire, à côté de l'esplanade des droits de l'homme voulue par François Mitterrand. Et on a des grandes galeries vides, 200 mètres, 300 mètres de long. Et ce nouveau musée, on aurait très bien pu le faire ici, au lieu de vider un musée pour construire un autre.
Retour à Paris avec le musée de l'homme du Trocadéro qui doit déménager vers sa nouvelle adresse, Quai Branly. Le musée de l'homme existe depuis 1937. Les syndicats sont contre sa fermeture et le personnel a entamé une grève ce lundi. Sophie Nenny et Guillaume Michel.
Archéologues, enseignants, scientifiques, intermittents du spectacle, tous s'étaient donné rendez-vous ce matin devant le musée de l'Homme pour empêcher le déménagement des collections d'ethnologie et pour soutenir son personnel en grève. Parmi eux, le célèbre ethnologue et cinéaste Jean Rouch.
On est là pour dire non. Et je suis très heureux que ça se passe ici au musée de l'Homme. Ce musée n'appartient à nous, mais pas à ceux qui veulent le transformer en bazar de l'hôtel de ville.
Alors, ça y est, on est au cœur du musée du Quai Branly. Et on est au centre de la bête, au cœur de la bête.
C'est toi le guide.
Alors, il faut dire que dans quelle compagnie on se trouve. On se trouve avec Aminata Traoré. Il faut rappeler qu'Aminata Traoré est malienne, ex-ministre de la Culture et du Tourisme du Mali, qui a pris des positions sur ce musée, qui a émis quelques critiques. Et puis on est avec deux jeunes Africains, l'un de la Côte d'Ivoire, l'autre du Mali, qui sont actuellement dans une bagarre épouvantable à Cachan, dans le gymnase de Cachan. Oui, les deux gars sont crevés, ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils attendent d'une minute à l'autre un assaut des CRS dans leur gymnase. Les mamans, les enfants, il y a déjà eu différentes attaques de leur refuge. On leur a demandé de venir ici parce que malgré tout, ils sont quand même africains. Et qu'ici, on est dans la section africaine de ce musée. Et on a voulu quand même faire un rapprochement entre vous deux Africains et une Africaine, et ces pièces qui viennent de chez vous, qui viennent de votre Afrique noire, au moment où tout le monde est en train d'admirer ses œuvres et ses chefs-d'œuvre, on est en train de virer de la façon la plus brutale des Africains, c'est-à-dire des gens qui sont des ressortissants malgré tout de cette culture et qui ont des liens, c'est le moins qu'on puisse dire.
Qui sont les propriétaires de ces œuvres, elles nous appartiennent.
Ouais.
Et donc, c'est surréaliste, je ne vois aucun Africain autour de nous. Je me crois vraiment sur une autre planète qui n'a rien à voir avec le monde réel. Pour moi, c'est ici. C'est l'illustration la plus parfaite des incohérences, des contradictions des rapports Nord-Sud. Le soin avec lequel ces objets sont traités est tranche avec la violence policière que nos frères sont en train de subir à Cachan aujourd'hui, qu'ils ont subi à Ceuta et Melilla. Et on préfère dans ces atmosphères feutrées venir voir ce qui émane de nous. Mais les Africains vivants, réels, qui sont sur pied, et c'est pas mal du tout que ce musée émerge précisément au moment où Nicolas Sarko nous sert l'immigration choisie, quoi. On ne peut pas trouver mieux.
C'est vrai que les jeunes Africains là, qui sont là, complètement fatigués parce qu'ils n'ont pas dormi de la nuit, ils font des tours de veille dans leur gymnase là-bas à Cachan, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, on est quelques-uns qui ne dorment pas, qui font la surveillance de 24 heures sur 24 heures parce qu'on a été attaqué avant-hier par les forces de l'ordre. Nous, on est là, on attend que si vraiment que les forces de l'ordre viennent au gymnase, il y aura trop de morts. Parce que tout le monde est déterminé, parce qu'on en a mal. Je préfère aujourd'hui mourir de cette situation que je suis dedans.
Et pendant ce temps-là, autour de nous, tous ces visiteurs sont en train de s'enchanter de pièces magnifiques, hein, de sculptures. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment...
Il y a des laisses.
Pourquoi vous ne venez pas ici? Venez vous installer là avec vos enfants, non? Avec vos femmes, vos enfants, vos copains, non?
Oui, bon.
C'est l'Afrique. C'est l'Afrique, mais il n'y a pas d'Africain.
Oui, il n'y a pas d'Africain.
C'est une Afrique sans ouais. Africain. Il y a des objets qui africains, mais il n'y a pas d'Africain dans l'Afrique.
Voilà.
Hein?
C'est ça.
Hein?
Ils ont besoin de nos objets, mais pas nous-mêmes.
Pas nous-mêmes.
Les objets, mais pas de sujet.
Voilà.
C'est incroyable. Moi, c'est ma première fois de venir là. Bon, déjà, j'ai la tête qui tourne. Quand je vois ce genre de trucs, bon, ça me donne de plus la haine encore, de plus ce qu'ils sont en train de nous mener aujourd'hui.
Alors l'un s'appelle Séméga Gaouchou, il est du Mali, l'autre s'appelle Posso Inza, il est de Côte d'Ivoire, et tous deux étaient dans le squat de Cachan, ils en ont été expulsés, et voilà, on a eu l'idée avec... avec Renaud Lambert, de leur demander de venir voir ce musée. Après tout, ils sont, ils appartiennent aux cultures et aux peuples qui ont produit ces œuvres que nous admirons. Alors, on admire ces œuvres, bien évidemment, mais on est un peu surpris quand même de voir qu'il n'y a pratiquement même aucun visiteur africain. Hein, les minorités visibles, ben là, elles sont, on ne les voit pas. Si, soyons justes. On voit une charmante fille noire à la cafétéria. On voit des hommes noirs à la surveillance, aux caisses, aux vestiaires, mais aucun pour visiter ces merveilles. Alors quand on dit passerelle, échange, rencontre, etc. Non, on a un public de gens qui errent dans ce musée du Quai Branly, regardant les objets assignés à l'ébahissement, assignés à l'émerveillement, qui sont là avec leur petite réserve de superlatifs. Il n'en faut pas beaucoup, une dizaine vous suffira. Mais qui n'en sauront pas plus parce que les cartouches, enfin les indications qui sont portées sont très très succinctes. On a compris qu'à travers les éclairages extrêmement léchés, mystérieux, c'est le grand mot mystérieux, parce que tout cet art est mystérieux, comme vous le savez, peut-être, eh bien, on n'en saura pas plus. Qui a produit ces objets, dans quelles conditions, quel est leur sens, quel est leur usage, etc. Ah non, ça relève de l'ethnologie et l'ethnologie serait empreinte d'un regard péjoratif. Il faudrait là admirer un point, c'est tout.
Donc,
ça, tu sais ce que c'est?
Oui.
Tu connais ça, mais ça c'est dans la brousse. Le féticeur qui fait ce masque-là, il garde ça dans la brousse. Donc il égorge des moutons pour faire le sacrifice, mais il ne garde pas ça dans la maison, mais il garde ça dans la brousse. Mm-hmm. C'est un fétiche très fort, il risque de faire la fissure à la maison.
Fissure dans la maison?
Oui.
Il faut éloigner ça de la ville. Parce que ça...
De la ville?
Oui. Faut en mettre en place parce que
c'est fétiche comme ça, il est tellement puissant qu'il faut l'éloigner de la ville, sinon ça risque de faire des fissures et d'effondrer les maisons.
Il fait des bruits dans la chambre, si ça est dans la chambre, si on parle avec lui, donc ça, s'il fait de grondements, donc ça peut faire des fissures.
Il y a déjà eu des inondations ici, c'est peut-être les fétiches qui ont déclenché les inondations des sous-bassements du musée.
Ah ouais. Ah. Mais vous pouvez pas faire venir des féticheurs?
Non, ouais. Bon, il y en a qui acceptent. Nous, on est devenus musulmans, on a changé les chemins. Donc maintenant, avant, on ne prie pas. Peut-être on était la même direction qu'eux. Maintenant, on prie. Donc ce qui veut dire qu'on a changé les directions, on ne peut pas avoir des Allah à la fois. Quoi. Donc il faut, tu prends un côté, tu laisses l'autre côté.
Ah, d'accord. Ça c'est la culture animiste.
Voilà, animiste.
D'avant, d'avant et qui continue. Ouais, toi, tu es musulman aussi.
Ouais, moi, je suis musulman. Qui continue, bon.
Avant, c'était tout le monde qui faisait ça en Afrique, même presque.
Mais nos parents, leurs ancêtres, ils suivaient que ça. Et ils avaient plus de puissance.
Ouais. Il faut voir les pays d'Oronon, les pays de Dogon. Ils portent que des masques, ils portent même pas de chaussures. Ce sont eux qui soignent aussi les malades.
Avec des plantes, avec...
Avec des plantes, ça soigne aussi, c'est vrai, ça soigne.
Je suis un sauvage. Mais pas esclave, ça va pas de soi.
malgré ma douche quotidienne aux enzymes. Dans le métro, mon odeur assomme les illuminés. Je suis un sauvage, mais ils ont réussi à me faire chanter. Je suis fier d'être bourguignon. Ils sont futés tout de même. Avec quelle sauce préférez-vous être mangé? C'est l'État qui paye. Rongez-vous les ongles, vous verrez qu'il réagirait. C'est un faible. En me prostituant pour ma liberté, j'ai découvert le fric. Évidemment, je n'avais plus de salive pour cracher dessus. Je me suis aperçu trop tard qu'il exploitait la conscience par l'inconscience. Comme dit le concierge de la Maison Blanche, c'est un crâneur. Truquez tout, mais pas le rire tout de même. Papa. Je ne veux pas monter pour que vous me lâchiez. Je préfère rester pour mieux nager. Je ne veux pas monter pour dégringoler. Je préfère rester pour me marrer.
Un objet, qu'est-ce que c'est un objet? C'est un truchement. L'objet est un moyen, l'objet n'est pas une fin, jamais, dans aucune culture, jamais, jamais. L'objet a besoin qu'on l'interroge, ou qu'on interroge celui qui est à côté de l'objet. C'est ce qui se passe dans ce musée du Quai Branly, avec ces deux jeunes Africains, l'un du Mali, l'autre de la Côte d'Ivoire, que je le rappelle, sont en instance d'expulsion. Ils vont être virés du pays, ils vont être virés de ce pays, renvoyés là-bas au Mali ou en Côte d'Ivoire. Du moins, ils risquent, celui qui est ressortissant de la Côte d'Ivoire risque sa peau si on le renvoie là-bas. Et on renvoie ces hommes et on garde les objets qui appartiennent à leur culture. Il y a une contradiction absolument insupportable, dans la mesure, de plus, où il y a une forte spéculation sur ces objets. Il y a là quand même une contradiction qui mérite d'être mise en lumière, qui mérite de faire controverse. Et je le disais en commençant, on est tout à fait perplexe et navré que les actuels directeurs de ce musée du Quai Branly refusent de venir discuter et nous informer sur le sens de ce musée qui est un lieu public quand même, hein, qui est un bien public. C'est pas parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises privées ou de mécènes privés qui ont participé que l'entreprise n'est pas publique, donc la controverse devrait l'être également. On retrouve donc Bernard Dupin, je rappelle donc qu'il est l'auteur de Le scandale des arts premiers.
Le fait qu'on nie notre travail nous choque, et aussi le résultat. Il y a un alignement d'objets dans des vitrines, un petit peu comme c'était chez nous. C'est le principe d'un musée, des vitrines bourrées d'objets. Mais nous essayons de donner des indications. On avait le souci d'essayer de faire comprendre la vie des gens. On mettait des photos, on mettait des explications, insuffisantes bien sûr dans certains cas. Tandis qu'au Quai Branly, bon, c'est un petit peu une accumulation de belles pièces sans explication, sans photos, avec des toutes petites étiquettes. Et tous ces objets sont un petit peu mis, ravalés au même état. Donc des beaux objets, mais on ne sait pas à quoi ils servent. Et je pense que les gens sont déçus, parce qu'ils veulent savoir à quoi servent tous ces objets. Ils ne veulent pas simplement les regarder, mais ils veulent les comprendre.
Parce que ce n'est pas un problème, ça, quand même, assez grave. C'est que des objets sans sujet, quoi. Hein, des objets, des beaux objets... Mais après tout, quand il y a une quinzaine commerciale au Galeries Lafayette sur le Pérou, je ne sais quoi, il y a des beaux objets aussi, hein, qu'on mettra sur une étagère, un beau tissu, un beau tapis, puis voilà quoi. Mais on ne va pas trop se soucier de qui l'a fait, dans quelles conditions ça a été fait, on dit c'est fait à la main, bon. Mais c'est tout, voilà. Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose? Est-ce qu'on n'a pas un peu le même problème avec le musée du Quai Branly? C'est-à-dire des beaux objets pour une émotion esthétique fugitive et sans suite et sans contexte et sans l'humanité qui a produit ces objets.
Oui, les objectifs sont différents. Nous prétendions connaître les objets et faire connaître les objets, et les initiateurs du Quai Branly l'ont dit, il faut admirer, il faut regarder le côté esthétique, il faut se laisser à la jouissance devant les objets. Et moi, je prétends qu'on ne se laisse pas aller à la jouissance devant les objets, on voit des objets et on veut sortir de l'objet, on veut pas simplement le regarder, on veut tourner autour, on veut voir ce qu'il y a dedans, à quoi ils servent, qui l'a fait encore une fois. Et ce qui est énervant, c'est qu'ils prétendent que nous étions incapables d'apprécier la beauté, ce qui effectivement est très vexant.
C'est un chantier suivi de près par Jacques Chirac lui-même. Le musée des arts premiers doit être inauguré en mars 2006, Quai Branly à Paris. Pour l'instant, seul le gros œuvre a été réalisé. Visite de ce qui deviendra un haut lieu des arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Isabelle Béchler, Jacques Gérard.
Un écrin prestigieux signé Jean Nouvel est en cours de construction pour la collection publique d'art premier. Dans cette coque vert, verdure et béton, on verra des objets d'art de toutes les cultures trop longtemps sous-estimées en Occident. Des pièces rarissimes présentées pour certaines dans ces boîtes qui seront autant d'univers singuliers dans le voyage du public.
On va le conduire à travers quatre continents. D'abord l'Océanie, puis on va arriver sur l'Asie. De l'Asie, le public pourra passer sur l'ensemble de l'Afrique en suivant l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, puis pourra traverser les continents par l'Amérique. Une découverte très libre, il n'y a pas de parcours imposé.
Les collections fort poussiéreuses mais d'une grande qualité scientifique du Musée de l'Homme, plus de 250 000 pièces, et celles du Musée de la Porte Dorée y seront regroupées dès le début de 2006. Branly est un concept de musée self-service où le visiteur, désormais plus actif, pourra se comporter en consommateur.
Désormais, le visiteur est un consommateur et le musée est un self-service. C'était les intentions, effectivement, de ce musée dans lequel nous nous trouvons au Quai Branly avec nos deux amis africains, les deux seuls Africains de la section africaine de ce musée. Masque bédu. Nafana, tu connais les Nafana?
Oui, ça, c'est fait pour les hommes uniquement. C'est interdit aux femmes.
Et donc les femmes ne voient jamais
non,
ces masques-là?
Ils ne voient jamais ça chez nous.
Oui, mais alors tu te rends compte, là, c'est exposé à n'importe qui, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas, quoi.
Ouais.
Ah, c'est ça?
Ouais.
Hein, c'est, ouais. C'est une façon de profaner ouais. quelque chose,
ouais.
non?
Oui, parce que nous, quand même, si on te dit « tu es interdit de regarder, tu n'as pas le droit de regarder », au moment, si on fait ces fêtes-là, tu te caches dans la chambre.
C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc c'est des objets de culte, c'est des objets de rite, de rituel.
Très dangereux aussi. Voilà, c'est donc très dangereux de les montrer là n'importe comment.
Ouais.
Hein, c'est ça.
Ouais. Parce que chez nous, déjà une femme qui voit ça, qui fait plus d'enfants.
Ouais. Ça, c'est intéressant quand même. Hein.
On montre des choses qui ne doivent pas être montrées. Ouais. Et donc c'est déjà un blasphème, c'est un viol d'une culture. Ouais. C'est un manque, au moins un manque de respect vis-à-vis d'une... Vis-à-vis d'une culture. C'est un peu comme si, je sais pas, il se servait d'un crucifix pour faire un marteau. Ça, tu vois, moi je trouve que ce serait un blasphème.
Ouais.
Tu vois ça sert pas de marteau, un crucifix. Mais là, je sais pourquoi c'est là. Parce que c'est, pour nous, dans notre esthétique, à nous, c'est très beau, c'est carré, noir et blanc.
C'est non, mais c'est de la beauté plastique. Ouais.
T'as raison, c'est pas du plastique, c'est du bois.
C'est du bois, c'est
ça. Ouais. Mais on voulait dire art plastique, mais bon.
Un départ là.
Vous savez à quoi ça sert, monsieur?
Pas du tout, je connais plus l'art africain.
Pardon?
Je connais plus, j'aime beaucoup l'art africain, mais je connais plus parce que c'est très difficile de tout connaître.
Oui, de mettre dans le contexte.
Voilà.
Et vous croyez que le musée vous aide à mettre dans le contexte ici?
Vous voyez ça?
Non, pas trop, en fait. Il faudrait des explications, beaucoup plus.
Bah oui, moi,
chaque objet mérite une explication.
Bah oui, c'est ça.
On allait voir les trucs là derrière.
Voilà, on en était là.
Allons là-bas.
Tu vois, ce qui est intéressant, ce qu'il nous raconte, c'est que c'est interdit que les femmes voient ça.
Ben, tu vois.
Hein? Donc y a, c'est le viol aussi d'une culture, hein, c'est le détournement.
Ah oui, là, non, le problème n'est plus là. Et c'est pour ça que je me dis souvent que l'Afrique est une femme, quoi. Séduite, mais maltraitée, malmenée, violée. Quand on fait le parallèle, il y a des similitudes. Hein. Et c'est ça qui est... Cette forme de découverte, est-ce la meilleure manière de rendre compte de la richesse d'un continent? Bon, ces objets ne parlent pas d'eux-mêmes. Bon, il faut aller après voir et recourir aux technologies qui vous disent d'où ils viennent, qui ils sont. Mais nous, on cesse de nous demander, étant donné la situation de détresse de la grande majorité des Africains, bon, qui parle pour nous? Où sont les gens? Où sont les vivants, quoi? Et que deviennent-ils dans tout ça? Et quel est le sens de ces objets?
On a dit que ce musée essayait de régler la question coloniale, le passé colonial de la France, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a une sorte d'avatar post-colonial dans cette histoire?
Il le perpétue. Et en raison de la genèse, de la démarche, l'acte de rupture que moi j'ai suggéré dès le départ, puisque j'ai été à un moment donné, lorsque j'étais ministre de la Culture, impliqué, j'ai cru naïvement à un moment donné qu'on pouvait à la fois poser le problème dans sa globalité. Et qu'est-ce qui nous vaut notre présence ici? C'est le résultat d'une histoire entre la France et nous, qui a été une histoire de violence, une histoire de prédation. Nous, on n'a pas tant pris à la France. On n'a rien pris pratiquement, sauf bon, ce qu'on veut bien nous laisser. Moi, j'aurais été beaucoup plus à l'aise et si tout cela amenait effectivement nos amis du Nord en général et la France en particulier à poser correctement la question noire, arabe et autres, la question coloniale. Et inviter les gens à lire ici des richesses en disant, voyez comme ils sont humains, comme ils pensent, lorsque, en dehors de ces espaces-là, et le regard qu'on pose sur moi dans la rue n'a strictement rien à voir avec la fascination qu'on peut avoir pour ces objets. Est-ce qu'on me respecte davantage parce que ces objets sont ici?
Est-ce qu'on respecte davantage les garçons de...
Ben oui.
Les Africains de Cachan.
Ben non, ils se trouveraient... Ouais, absolument.
C'est les Africains c'est... comme les Asiatiques.
C'est incongru comme démarche. Ils n'auraient pas se trouver aujourd'hui à Cachan si ce musée avait un sens autre qu'on se fait plaisir. On a les moyens architecturalement de faire venir 300 000 pièces et de les mettre en vitrine. Hein, dans un environnement soft, les gens vont et viennent, mais il y a très peu. Où sont les propriétaires de ces pièces-là? Est-ce qu'ils vont pouvoir entrer ici? Nous, on est des privilégiés. Combien d'Africains vont pouvoir venir voir leurs objets ici?
C'est une nouvelle diffusion du reportage de Daniel Mermet et Renaud Lambert du 17 octobre 2006. Merci à Amina Traoré, Semega Gaoussou, Posso Inza et à Bernard Dupeigne. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission « Là-bas, si j'y suis ». À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Pascal Baldassari. Réalisation Koyen Guyenne et Raphaël Moutarde. Assistante Charlotte Perry. Répondeur Agnès Lebotte. Le répondeur de là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.